Le président est la seule autorité compétente pour représenter le territoire à l'extérieur, rappelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie concernant le voyage au Vanuatu d'une délégation commerciale conduite par le président du FLNKS. À Dumbéa, après 2 années d'interruption, le groupe scolaire Louise de Gréland retrouve ses élèves. Un projet de reconstruction de 258 millions de francs, dont 152 millions financés par l'État. Un invité dans ce journal, nous recevrons Pascal Vittori, maire de Bouloupari, pour notamment nous parler de la fête du cerf et de la crevette qui se déroulera ce week-end. Vers une structuration de l'économie sociale et solidaire, une mission d'études stratégiques va être lancée ces 6 prochains mois par l'AFD et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Du sport et de la cohésion au lycée Blaise Pascal ce matin, un remake de la Coupe du Monde de football, le Mundialito, était proposé aux élèves et au personnel de l'établissement. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. La poursuite des discussions sur l'avenir institutionnel. Le Premier ministre Sébastien Lecornu invite de nouveau les partenaires politiques calédoniens pour une réunion multilatérale. Elle se déroulera ce mercredi 6 mai à 22h15, heure de Paris, c'est-à-dire demain matin à 7h15, heure de Nouméa. Le BP du FLNKS est réuni pour décider s'il participe ou non à la réunion, mais l'ensemble des autres délégations y participeront en visioconférence. Ces nouveaux échanges interviennent après la réunion de mardi dernier qui avait été entourée de la plus grande discrétion et qui n'avait pas permis d'avancer sur la question du corps électoral ni de fixer précisément la date des élections provinciales. Aucune information n'a été donnée sur l'ordre du jour de cette nouvelle séquence de discussion. L'incident diplomatique entre la France et le Vanuatu continue à susciter des réactions après l'invitation d'une délégation commerciale conduite par le président du FLNKS, Elisabeth Noir.
Dès hier, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait protesté contre le fait que cette mission soi-disant commerciale était conduite par le président du FLNKS, Christian Théien. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui rappelle que son président est la seule autorité compétente pour représenter le territoire à l'extérieur. De son côté, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie et du commerce extérieur, a annoncé dès hier qu'il suspendait tous les travaux relatifs à l'accord de coopération commerciale entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Et on sait que l'État a apporté immédiatement son soutien au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et précisé que l'ambassadeur de France au Vanuatu ne participera à aucun des événements programmés dans le cadre de cette rencontre économique. L'ambassadeur de France au Vanuatu, Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer, qui s'exprime sur les réseaux sociaux pour indiquer notamment qu'il a rencontré le ministre du Commerce du Vanuatu pour échanger sur cette situation. Nous partageons, écrit-il, la même volonté de développer les relations économiques entre nos deux territoires, ce qui rend cet incident d'autant plus regrettable. Il aurait pu être évité si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait été associé dès le départ. L'ambassadeur de France au Vanuatu précise aussi que plusieurs entrepreneurs calédoniens présents pour des raisons économiques se sont retrouvés dans une position inconfortable et que certains d'entre eux ont préféré quitter les discussions. Le paradoxe est cruel, ajoute Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer. Un forum censé renforcer les liens économiques a, par la méthode employée, produit l'effet inverse. En conclusion, il se dit profondément convaincu du potentiel de la relation économique et commerciale entre la Calédonie et le Vanuatu et de la volonté politique des deux côtés de la développer dans la sérénité. Pour lui, cet épisode appelle à tirer des leçons, à mieux se comprendre et à poursuivre le travail ensemble dans notre intérêt commun. Voilà donc pour cette mise au point de l'ambassadeur de France au Vanuatu. Réaction également sur le territoire de Véronique Roger-Lacan, l'ambassadeur de France dans le Pacifique.
Les autorités du Vanuatu, le ministre du Commerce du Vanuatu, avaient publié des communiqués sur le thème « Une délégation de la Nouvelle-Calédonie est en ce moment au Vanuatu pour développer les relations économiques ». Or, c'est une délégation du FLNKS. Et ça, évidemment, le FLNKS se déploie où il veut et le Vanuatu voit le FLNKS s'il le souhaite. Mais en termes de communication, le FLNKS représente, le FLNKS ne représente pas la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on a clarifié. Et notre ambassadeur au Vanuatu, qui avait été invité, ne participera pas parce que c'est une réunion politique. Ce n'est pas une réunion institutionnelle, économique, entre deux institutions gouvernementales ou territoriales.
Voilà pour cette réaction de Véronique Roger-Lacan, l'ambassadeur de France pour le Pacifique, qui sera par ailleurs notre invité du matin demain à 7h30. Et puis autre réaction, celle de la commune de Dimbéa, qui annonce la suspension des relations avec le Vanuatu. Ce qu'a fait le Vanuatu en invitant le FLNKS et surtout Christian Théin, plutôt que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie élu par le peuple, c'est une insulte, écrit le maire de Dimbéa, Cynthia Jean, une insulte à tous les Calédoniens qui ont souffert et qui souffrent des conséquences de 2024. En conséquence, elle annonce qu'elle suspend dès à présent les relations avec Port-Vila, ville jumelle de Dimbéa, jusqu'à nouvel ordre.
L'État veut faire des territoires français du Pacifique des puissances océaniennes. C'est la mission de l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, qui a multiplié les projets au cours des 3 dernières années, Michael Juneski.
Elle s'est rendue dernièrement en Micronésie pour évoquer les possibilités de coopération dans la région. Une problématique commune s'est dégagée, la lutte contre la montée des eaux. La Nouvelle-Calédonie peut venir en aide aux 3 États micronésiens en livrant de la scorie de nickel qui pourra servir à construire des digues. Les entreprises du BTP du territoire pourront également partager leur savoir-faire. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique.
Ce sont 3 États qui ont une zone économique exclusive immense et une terre très étroite. Majuro, la capitale des îles Marshall, c'est 70 km de long, 40 mètres de large, 2 mètres d'altitude. Donc vous imaginez les questions qu'ils ont à traiter de... lutte contre l'érosion côtière, la montée des eaux. Et ils étaient très intéressés par les scories. On lance une étude de faisabilité qui va étudier donc la compatibilité de la scorie de nickel calédonien avec l'environnement de chacun de ces États. Puis il y aura des projets pilotes. Par exemple, si on veut construire une digue aux îles Marshall pour lutter contre la montée des eaux, eh bien ça sera ça. Et la troisième phase de notre projet, ce sera un tour de table financier pour savoir comment financer, comment aider financièrement ces États. Tout ça, c'est vraiment au bénéfice du Pacifique.
L'étude va débuter en juin et livrer ses premiers résultats en fin d'année. Déjà, les îles Marshall ont acheté de la scorie de nickel à la SLN pour réaliser du remblai.
Et je vous rappelle que l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, sera notre invitée du matin demain à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Êtes-vous choqué que le Vanuatu ait invité une délégation du FLNKS et non le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à participer à une rencontre commerciale? Si vous êtes choqué, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, après l'agression d'un arbitre samedi lors du match de football L'Ossi Horizon Sport, 88% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il faut radier à vie les sportifs coupables d'agression contre les arbitres. Ils sont 12% à être d'un avis contraire. 2 ans après les émeutes, quel est l'état économique de la Nouvelle-Calédonie? C'est le thème des rendez-vous de l'économie organisés ce soir par la CCI, Jean-François Baudin.
Des rendez-vous qui permettront d'analyser les grandes tendances, mais aussi l'évolution de l'activité, de la consommation, de l'emploi, du tourisme ou encore du nickel. C'est aussi lors de cette rencontre que les représentants des organisations patronales, MEDEF, CCI, CPME et FINC, présenteront 5 propositions du monde économique pour soutenir l'économie et les entreprises. Le président du MEDEF, Bertrand Courte, en avait parlé dans le magazine Transparence il y a quelques semaines sur Radio Rythme Bleu. Ces 5 propositions sont les suivantes. Différer le paiement des cotisations patronales et des travailleurs indépendants pendant 3 ans et demi. Exonérer les cotisations salariales et RUAM de façon partielle et dégressive. Supprimer la patente pendant 2 ans. Prolonger l'allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi jusqu'à mi-2028. Et enfin proroger le dispositif et la prise en charge des commissions de garantie SOGEFOM.
Des propositions sur lesquelles nous reviendrons en détail demain midi dans les Jeudis de l'économie. Pour détailler ces propositions et mesurer leur pertinence, Jean-François Baudin, vous recevrez le président du MEDEF Bertrand Courte et celui de la CPME Christophe Dautieux, ainsi que Stéphane Yotto, vice-président de la CCI. Comme annoncé, c'était aujourd'hui le départ du navire de la CMI à destination du Vanuatu, une liaison que la compagnie maritime des îles espère pérenniser avec l'archipel voisin, Michael.
Le Caraca, le nouveau navire de transport de la CMI, a quitté le port autonome aujourd'hui pour prendre la direction du Vanuatu. La demande a été forte pour du transport de fret, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour la compagnie maritime des îles. Près de 300 tonnes de fret vont être transportées pour cette première rotation. Thomas Quiros, le directeur général de la SMI.
Aujourd'hui, on est fin prêt. On a tous les accords des douanes, du CIVAP, de la police aux frontières. Et on est allé jusqu'au bout réglementaire. Aujourd'hui, on peut enfin faire notre départ. C'est une amorce, hein. On amorce la ligne. Donc une nouvelle ligne, ça a besoin d'être rodée, de montrer la régularité aux gens. On a eu énormément de demandes, hein, depuis 15 jours. Beaucoup, beaucoup de demandes de devis, beaucoup de consultations. Là, on part avec un petit peu de fret, on va dire. Hein. Mais on va aussi surtout positionner pour ce premier voyage des containers sur Port Vila et sur Santo, qui vont permettre aussi de faire du retour pour le prochain voyage. Là, on doit être sur à peu près 300 tonnes pour une première, c'est bien.
Le Caraca doit arriver à Port-Vila vendredi matin, puis samedi matin à Santo. Les demandes ont été variées pour cette première. Du fret pour des particuliers, mais aussi des marchandises à destination du Vanuatu.
Alors on a eu 2 déménagements, donc ça c'est des particuliers, hein, plus ou moins, enfin des transitaires qui viennent nous voir pour le compte de leurs clients. Du matériel aussi de BTP envoyé. Il y a des médicaments qui partent. Il y a aussi des produits frais pour certaines grandes surfaces au Vanuatu qui sont intéressées par les produits de la Française, de l'OCEF, etc. Il y a de la variété. On va recommencer la réception Vanuatu sec pour le prochain voyage, quasiment à partir de la semaine prochaine. Les gens pourront déjà déposer pour le voyage suivant jusqu'au vendredi, juste avant la semaine du départ. Ça, ce sera le cut-off du sec. Et ensuite, le lundi du départ, normalement, on part les lundis. Le matin, on fait juste les dernières marchandises frigo, réfrigérées, périssables. C'est prometteur pour le mois prochain.
Thomas Quiros, le directeur général de la CMI, la compagnie maritime des îles, qui espère pérenniser cette rotation avec une liaison effectuée à chaque début de mois.
Cérémonie ce matin à Dumbéa. Le haut commissaire Jacques Billon, le maire de Dumbéa, Cynthia Jean, le député Nicolas Metzdorf, le deuxième vice-président de la province sud, Gilles Briel, ainsi que plusieurs élus et représentants d'entreprises se sont retrouvés pour la réouverture du groupe scolaire Louise de Grélan. C'est dans le quartier de Jacarandas, Lionel Sabot.
Fortement dégradé durant les émeutes de 2024, l'école a réouvert ses portes le 20 avril dernier après plusieurs mois de travaux de reconstruction. Les travaux engagés représentent une enveloppe de 278 millions, dont 152 millions pris en charge par l'État au titre de la reconstruction et ont mobilisé une dizaine d'entreprises, le haut-commissaire Jacques Billon.
C'est un moment important et je tenais vraiment à être présent aux côtés de Madame le maire dans le cadre de cette inauguration de l'école Louise de Grélan reconstruite. Elle a été incendiée par 2 fois en 2024 et j'avais eu l'occasion, peu après mon arrivée, de venir ici au moment où on procédait au lancement du chantier. Me retrouver ici au milieu des enfants, au milieu des enseignants, avec tous les élus, c'est un moment très symbolique, très important. Nous avons fait en 2025 de la reconstruction des bâtiments publics détruits pendant les événements de 2024 une priorité, avec un engagement financier de l'État à hauteur de 80% et en montant même à 100% pour les établissements scolaires. Nous savions qu'il y avait urgence pour assurer la continuité de l'enseignement. Vous avez vu que nombreux étaient les enseignants présents, mais aussi les parents, hein, fiers de retrouver une école à la hauteur des enjeux que nous portons en Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement.
Les locaux du désormais groupe scolaire Louise de Grélan disposent de 12 classes, 8 pour les primaires, 4 pour les maternelles, mais aussi d'une cantine, une salle informatique et d'une bibliothèque. En revanche, l'école maternelle des Jacarandas, fortement dégradée elle aussi pendant les émeutes, a été définitivement fermée. Mais la commune a des projets pour ces bâtiments. Cynthia Jean, maire de Dumbéa.
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons réouvert cette école et aujourd'hui cette cérémonie l'a montré. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de protéger cet espace sacré qu'est l'école républicaine, un lieu d'enseignement gratuit, laïque, ouvert à tous. Et on a essayé de donner ce message à chacun des acteurs de la communauté éducative, des parents d'élèves. C'est que nous allons, nous mobiliser entièrement pour protéger, préserver nos écoles et puis surtout qu'elles puissent offrir à tous les enfants du quartier un lieu d'apprentissage apaisé. Nous avons profité de cette cérémonie pour emmener à nouveau Monsieur le Commissaire sur le site de la maternelle Jacarandas, juste à côté, qui a été elle aussi détruite. L'idée, c'est de solliciter à nouveau l'État pour pouvoir avoir un financement et convertir cette école maternelle dans un projet socio-éducatif, culturel, pour offrir là aussi un nouveau service aux habitants du quartier et au-delà à tous les Dumbéens.
Et après plusieurs mois de travaux, les élèves, mais aussi l'ensemble de l'équipe éducative, disposent donc d'une infrastructure entièrement neuve pour le bien-être des élèves et des personnels. Jérôme Lafenêtre est le directeur du groupe scolaire Louise de Grélan.
C'est une grande émotion, parce que dans une semaine, ça fera pile poil 2 ans qu'on a dû quitter notre école. Donc c'est beaucoup d'émotions de retrouver les anciens élèves, des petits nouveaux qui débarquent. Donc c'est des fratries qui reviennent sur le site avec l'équipe enseignante qui était présente auparavant et qui revient sur le site. Donc voilà, donc l'inauguration aujourd'hui permet de finaliser cette ouverture. On a repris le 20 avril et très heureux, même si on n'a pas toute la capacité qu'on avait. On a perdu 170 élèves, donc voilà, mais très heureux quand même. On a une structure qui est magnifique. Alors déjà, le bâtiment en lui-même était déjà très beau, mais là, on a tout le mobilier neuf. On a des systèmes d'acoustique au plafond, on a des ventilateurs qui marchent super bien. On a un mobilier design qui est vraiment adapté à tous les élèves. Donc vraiment, c'est des conditions de travail qui sont idéales, donc on est très très heureux.
Et j'ajoute que le groupe scolaire Louise de Grelan accueille pour le moment 127 élèves, dont 40 en maternelle. Outre le directeur, l'équipe pédagogique est constituée de 7 enseignants. Par ailleurs, la ville de Dumbéa met à disposition de l'école 9 agents municipaux.
Les habitants de Dumbéa confrontés à des cambriolages ces dernières semaines. Plusieurs faits de vol et tentatives de vol ont été signalés, dont plusieurs hier soir du côté de Coutio. En fin de soirée, un individu a tenté de s'introduire dans une habitation située à proximité du lycée d'Ikikewe. Un peu plus tôt, vers 19h, c'est une tentative de vol de véhicule qui s'est déroulée. Les voleurs ont réussi à déplacer une Ford Ranger sur plusieurs mètres sans parvenir à la démarrer. Le véhicule a finalement été retrouvé par ses propriétaires sur une route en contrebas à quelques mètres de là. Les riverains sont parvenus à maîtriser le cambrioleur qui a ensuite été arrêté par les forces de l'ordre. En bref, toujours un homme jugé responsable d'avoir blessé une personne lors d'une action de rodéo motorisé sauvage en voiture lors de la dernière nuit de la Saint-Sylvestre sur la commune de Poya. Il a écopé aujourd'hui d'une peine de 12 mois de prison avec sursis. Son permis de conduire a également été suspendu pour 6 mois, tandis que son véhicule a été confisqué. Il est 18h, passé de 2 minutes. Première pause avant d'accueillir notre invité, Pascal Vittori, maire de Bouloupari.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Léana Colombo.
Ce week-end, la fête du cerf et de la crevette revient pour une nouvelle édition à l'hippodrome de Bouloupari, un événement incontournable des fêtes calédoniennes dont nous allons parler avec Pascal Vittori, maire de la commune, et pour vous interroger, Jean-François Baudin.
Bonjour Pascal Vittori.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler évidemment de ce rendez-vous traditionnel de la commune de Bouloupari, cette fête du cerf et de la crevette, qui a évolué un peu dans le temps, on le sait, mais qui aujourd'hui est d'une certaine façon, on va dire, un peu stabilisé. Hein. C'est une valeur sûre pour la commune, mais c'est aussi un moment important pour la vie économique de Bouloupari. Hein. C'est vraiment ce que vous prenez, ce que vous dites assez régulièrement.
Oui, d'abord parce que moi, j'essaye particulièrement dans cette période de crise économique et financière de soutenir tout développement économique dans la commune de Bouloupari. Et particulièrement au moment de la fête, donc on fait en sorte qu'il y ait au moins 30% des stands qui soient des stands de Bouloupari. D'abord parce que ça permet à des familles, à des associations d'avoir pendant ce week-end-là des revenus un petit peu exceptionnels. Et puis parce que ça fait connaître tout le savoir-faire culinaire, artisanal, culturel de Bouloupari. Et donc c'est important, ça participe au rayonnement de la commune. Et quand, vous savez, quand on a une bonne image d'une commune, en général, on a envie d'y revenir, on a envie d'y passer du temps, soit en touriste, soit en habitant. Et c'est toujours bon pour le développement de la commune.
Alors c'est une fête qui rencontre toujours beaucoup de succès, un succès populaire. On sait que les gens viennent évidemment de beaucoup plus loin que Bouloupari. Mais est-ce que les habitants de Bouloupari sont vraiment mobilisés autour de cette fête? Est-ce que c'est aussi leur fête d'une certaine façon?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a, je vous disais, d'abord une trentaine de stands qui sont animés par des familles ou des associations de Bouloupari. Et puis, c'est une fête qui est toujours très attendue. C'est-à-dire que les gens y viennent, ils y passent leur week-end, parce que c'est l'occasion de se rencontrer entre Bouloupariens, de revoir le dépeçage du cerf. Là, cette année, on va pouvoir assister au rodéo, qui est toujours une attraction qui plaît beaucoup. Et puis, c'est l'occasion de retrouver les amis, qui viennent de plus loin en brousse ou les amis et la famille qui viennent de l'agglomération nouméane.
Alors c'est une fête bien évidemment, mais c'est aussi une fête gustative et culinaire j'allais dire, hein, parce que les héros de la fête c'est le cerf et la crevette. Bien évidemment, la question qu'on vous pose chaque année, y aura-t-il suffisamment de cerfs et de crevettes pour tous les gens qui vont vouloir en acheter lors de leur passage sur le champ de foire?
Oui, on s'est assuré d'avoir suffisamment de crevettes. On a un partenariat avec une ferme de crevettes qui, s'il le faut, organisera une pêche samedi après-midi pour pouvoir alimenter en crevettes dimanche matin. Ce qui change cette année, c'est que on n'aura pas un stand de crevettes, mais on aura une dizaine de stands qui vont vendre des crevettes, des stands culinaire, donc ce sera indiqué sur le circuit de la foire. Et puis on aura un pêcheur de Boulou Paris qui pourra fournir des crevettes, mais aussi du poisson, du crabe et des huîtres de cailloux. Voilà, pour les amateurs. Et puis pour ce qui est du cerf, on a la Sodevia donc qui va vendre de la viande de cerf fraîche, hein, donc on pourra acheter de la viande de cerf fraîche. Et puis après on a les stands culinaires ont obligation de proposer des plats à base de crevettes et de cerf.
C'est le cahier des charges.
Voilà, c'est le cahier des charges obligatoire. Et puis bien sûr, comme d'habitude, on trouvera du saucisson de cerf, du jambon de cerf, du cerf en salade. Voilà, donc il y en aura pour tous les goûts. Et puis surtout, cette année particulièrement, le restaurant de la foire sera tenu par le Steakhouse de Tomo, qui est un restaurant boulou parisien réputé pour ses viandes et qui est alimenté par l'élevage Bourgine, qui produit de l'excellente viande. Et donc, pour les amateurs de viande, moi, je leur recommande de venir déjeuner au restaurant ce week-end.
Alors, fête gourmande et gustative, on l'a bien compris, mais c'est aussi une fête où il y a de la place pour les familles, les enfants, il y a les traditionnels concours, on retrouve les animations, j'allais dire, que l'on retrouve depuis plusieurs années sur le champ de foire.
Oui, bien sûr. Alors, pour les enfants, il y a des manèges, hein, mais il y a aussi des jeux, hein, de courses de sacs, tirer de cordes, les courses de pneus, le lancer de claquettes. Voilà, ça a toujours beaucoup de succès auprès des petits. Il y a bien sûr de la musique, il y a des danses. Il y a une nouveauté dans les danses cette année, c'est qu'on a un stand d'animation, d'initiation à la danse country. C'est une danse qui se développe beaucoup à Boulou Paris et donc tous ceux qui veulent s'essayer pourront le faire ce week-end.
Il y avait des hésitations les années précédentes en raison de la crise Covid, puis des émeutes sur une fête qui dure un jour, deux jours. Vous avez tranché finalement, deux jours ça vous semble être la bonne jauge pour pouvoir accueillir un maximum de monde?
Oui, et puis surtout ça permet aux exposants de pouvoir s'installer et de bénéficier de deux journées de vente, parce que c'est vrai qu'il y en a qui font l'effort d'arriver avec de très beaux stands, avec beaucoup de matériel. Et donc, venir pour une seule journée, finalement, ça n'était pas très rentable. Et donc, dès qu'on a pu, on a rétabli la fête sur deux jours. Et ça, c'est mieux pour les exposants. Ça permet d'avoir des stands de qualité. Et finalement, c'est bénéfique pour tout le monde.
C'est une question aussi qu'on pose année après année, parce qu'il y a évidemment un afflux de personnes qui viennent. Est-ce que l'entrée est payante et pourquoi elle est payante si elle l'est? C'est parce qu'il faut évidemment équilibrer les comptes de la foire.
Oui, il faut équilibrer les comptes de la foire, particulièrement en cette période difficile financièrement. La commune ne peut pas tout subventionner et donc on demande une participation. Mais cette année, on a tenu à baisser donc, le prix de l'entrée. Et donc c'était précédemment 1500 francs par voiture. Là, cette année, ce sera 1000 francs par voiture et 500 francs pour les piétons.
Vous avez évoqué les nombreuses activités qui vont rythmer le week-end, notamment ce rodéo qui aura lieu dimanche matin. Ce sera aussi l'occasion peut-être d'évoquer la figure de Roland Moisson. C'est le drame qui a touché Boulou Paris le 1er mai. C'est quelque chose qui est évidemment très présent encore parmi les habitants de la commune. Est-ce qu'il y aura un moment particulier où Roland Moisson sera honoré pour tout le travail qu'il a fait, notamment dans le monde du rodéo?
Bien sûr, toute la commune de Boulou Paris est choquée par ce qui s'est passé, quoi. Et donc, avec la famille, avec ses amis, on a souhaité lui rendre hommage dimanche matin, avant le rodéo, à partir de 9h. Et donc, il y a des, je veux pas tout dévoiler, mais il y a des cavaliers qui viendront pour lui rendre hommage. Et puis, la commune lui rendra hommage aussi sur le site. Et on laissera sur le site du carré de rodéo une trace de Roland qui sera là pour toujours.
Voilà, et on va préciser que ce rodéo est un rodéo très complet, puisque ce sera monte sur chevaux, mais aussi monte sur taureau.
Sur taureau, voilà. Oui.
Donc le vrai rodéo, quoi.
Exactement.
Et on va jusqu'au bout.
Et il y en a pour 3 heures, donc c'est un vrai spectacle. Et moi, franchement, j'encourage tout le monde à venir voir ça. Plus, le site est vraiment très bien, parce qu'on peut s'installer, en fait, sur la pente tout autour du carré de rodéo. Et donc, on a une très bonne visibilité. Voilà.
C'est à quelle heure?
Il va faire beau. C'est à partir de 9h, le rodéo, pour 3 heures. Ça permet de passer une bonne journée le dimanche aussi. Et puis, pour ceux qui auront découvert la foire et tous les stands le samedi, eh bien, on termine le dimanche matin par un rodéo. Et franchement, ça fera un beau week-end.
Pascal Vittori, on va un tout petit peu changer de sujet, si vous le voulez bien, parce qu'on va parler de l'Association française des maires que vous avez présidée jusqu'aux élections municipales des 15 et 22 mars. C'est statutairement le président est réélu après chaque élection municipale. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que l'association existe toujours? Est-ce qu'elle s'est mise en ordre de marche? Est-ce qu'elle a un nouveau président? Est-ce que vous êtes candidat? Enfin, faites un petit point complet.
Alors, l'association, bien sûr, existe toujours. Il y a eu beaucoup de renouvellements, hein, puisqu'on sait que de nouveaux maires sont arrivés, hein, dans beaucoup de communes. Et donc, ça va être l'occasion pour nous de nous retrouver. On est l'Association française des maires et donc j'ai pris l'initiative d'inviter demain les nouveaux maires non indépendantistes, hein, et qui sont susceptibles de pouvoir rejoindre notre association. Et donc j'ai invité le maire de Thiot, j'ai invité le maire de Conné, j'ai invité le maire de Pointe-Boute, j'ai invité le maire de Coumac. Et puis, on a de nouveaux maires à l'île des Pins et à Kouaoua, mais qui sont invités également et qui devraient nous rejoindre demain. On ne procédera pas immédiatement, à la demande de certains maires, on ne procédera pas immédiatement donc au renouvellement du bureau. D'abord parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître un petit peu. Et puis, parce qu'il y a des maires qui ne pouvaient pas être présents demain. Donc on attendra que tout le monde soit présent pour pouvoir renouveler ce bureau. On est un petit peu pressé par les institutions et notamment le gouvernement. On a plus de 100 représentations, hein, l'Association française des maires, dans les différentes institutions. Donc on procédera demain à quelques nominations. Mais en tout cas, pour le bureau, on attendra un petit peu. Et puis c'est une séance qui est consacrée au service de l'État en lien avec les communes. Donc bien sûr, on aura la mission...
C'est un peu la suite du séminaire qui s'était tenu au commissariat la semaine dernière.
Ça viendra en complément, effectivement. Donc, on va parler refondation, hein, et aide de l'État aux communes. On a également la présidente, oui, de la Chambre territoriale des comptes qui viendra nous expliquer un petit peu quel est le rôle de la Chambre territoriale des comptes et comment elle peut travailler avec les communes. Et puis, on aura le général Défant qui viendra également pour nous parler de cette année exceptionnelle, les 80 ans du retour des volontaires du Pacifique.
Une dernière question, Pascal Vittori. On sait que les communes peuvent répondre à cet appel à projet pour soumettre des projets qui seront pris en charge dans le cadre de ce plan de reconstruction. Est-ce que la commune de Bouloux-Paris a déjà déposé des projets? Est-ce qu'elle va en déposer dans les phases à venir?
Oui, bien sûr, on a déjà déposé des projets. Alors, il y a des projets divers, mais on a par exemple beaucoup de soucis comme d'autres communes avec nos routes. Nos routes ont été très abîmées par les intempéries. Ça fait quelques années qu'on a beaucoup de pluie et on n'a pas plus de budget pour ça. Et donc, on a déposé des demandes d'aide pour refaire nos routes. La difficulté qu'on a, c'est le délai. C'est-à-dire que là, on doit déposer maintenant les projets
avec
les études avant le 15 mai. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'en fait, les bureaux d'études, à cause de la crise, ont dû se séparer d'une partie de leur employés. Et donc, du coup, c'est plus difficile pour les bureaux d'études de pouvoir nous rendre des études dans les délais. Donc, on discute avec l'État pour essayer de mettre un petit peu de souplesse dans tout ça et pour être sûr que l'argent qui a été mis à disposition par le Premier ministre soit utilisé le plus rapidement possible pour la relance économique de la Nouvelle-Calédonie.
Pascal Vittori, maire de Bouloux-Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Évidemment, vous appelez les Calédoniens à venir ce week-end sur le champ de foire à l'Hippodrome.
Oui, les Calédoniens de partout, parce que finalement, Bouloux-Paris, c'est entre la brousse et la ville, et donc c'est proche, à la fois proche de la brousse.
Vous allez dire que c'est la commune la mieux placée du territoire.
Ah bah oui, c'est un peu un lieu stratégique, on va dire, entre la brousse et la ville. Et donc, on accueille tout le monde et c'est vraiment un point de rencontre dans une ambiance très familiale. Et c'est très apprécié des Calédoniens. Il va faire beau en plus, comme toujours. Et donc, je donne rendez-vous à tous les Calédoniens samedi matin, dès l'ouverture à 9h. Et puis, on peut aussi faire un petit clin d'œil à nos amis de Wainé, puisque Boulou Paris est jumelé avec la commune de Wainé. Et donc, c'est eux qui accueilleront le public lors de l'ouverture. En général, ils sont entre 30 et 50 ukulélés. Et ça fait franchement, ça donne une ambiance magnifique. On sera accompagné dans la visite des stands par la bande à Momo aussi, on les remercie tous et franchement ce sera une belle ambiance de fête en famille.
Merci beaucoup Pascal Vittori, on vous retrouvera évidemment sur le champ de foire tout le week-end, merci d'avoir été présent ce soir dans les studios de la radio.
Et je vous rappelle que la fête du cerf et de la crevette se déroulera ce week-end les 9 et 10 mai à l'hippodrome de Boulou-Paris, au programme rodéo, dépeçage de cerf et animation pour petits et grands.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou-Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Une nouvelle étude lancée pour mieux comprendre la situation et l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Une convention a été signée ce mercredi entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'Agence française de développement. Michael Juneski.
Une nouvelle étape pour continuer de travailler un cadre réglementaire global pour l'économie sociale et solidaire. Une loi de pays a déjà été adoptée l'année dernière pour fixer les conditions cadres de son développement. Les données doivent désormais être actualisées, mises à jour pour mieux mesurer la situation de cette économie informelle, mais avec une réelle potentialité, à condition d'achever la structuration de son cadre. Naya Wateu, membre du gouvernement en charge de ce secteur.
L'économie sociale et solidaire, c'est un sujet que je porte depuis 5 ans maintenant et qui me tient à cœur de pouvoir initier également à l'échelle du gouvernement. L'AFD a toujours été présente dès qu'on a commencé à se préoccuper de ce sujet de l'ESS, de l'économie informelle, mais avec une véritable potentialité économique. Et finalement, sans cadre réglementaire, aucun moyen de pouvoir reconnaître pleinement ces acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire. Cette démarche, elle va s'entreprendre avec cet accompagnement spécifique, notamment au travers de la mise en œuvre de ces lois du pays qui vont venir à la fois reconnaître, définir et accompagner ce qu'est l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie. En parallèle, au niveau du gouvernement, on lance avec ce nouveau secteur la structuration de l'économie sociale et solidaire. Mais finalement, on se retrouve dans cette situation où vouloir structurer quelque chose lorsqu'on ne sait plus ce que cela représente devient problématique. Et c'est tout l'enjeu de ce nouvel accompagnement financier de l'AFD et pouvoir adapter et ajuster nos dispositifs d'accompagnement, de soutien au mode économique ou, et c'est là aussi tout l'intérêt, de nouveaux dispositifs qu'on n'a pas encore identifiés pour accompagner et soutenir ce mode d'entreprendre.
Une première étude avait été menée en 2021 en partenariat avec la Banque des Territoires pour connaître le poids de l'économie sociale et solidaire et donner des pistes pour préparer un cadre juridique à ce secteur. Une seconde étude avait cette fois été réalisée à la demande du collectif des associations pour l'analyse de l'impact de la crise de 2024. Une mise à jour des données est aujourd'hui nécessaire. L'Agence française de développement financera cette étude à hauteur de 7 500 000 francs. Julie Doiteau, directrice adjointe de l'AFD en Nouvelle-Calédonie.
Ces deux premières études ont permis de montrer finalement quels sont les enjeux et les pistes, les recommandations pour parvenir à développer ce secteur, à l'accompagner. Il y avait des choses très concrètes qui ressortaient à la fois en termes de représentation du secteur, en termes d'accompagnement dans les démarches administratives par exemple, de soutien sur le volet ressources humaines, y compris tout ce qui est bénévolat par exemple, et puis l'accès à des financements avec un peu de visibilité et pourquoi pas d'aller chercher aussi des financements en dehors du territoire. C'est un mode d'entreprendre qui existe déjà sur le territoire, qui a tout son sens, je pense, puisqu'il permet à la fois de favoriser le développement local, mais aussi de travailler sur l'insertion professionnelle et sur la cohésion sociale, hein, puisque l'économie sociale et solidaire, son objectif, c'est justement d'entreprendre, mais dans un but collectif, d'utilité sociale. Pour nous, c'était naturel d'accompagner le gouvernement et ses partenaires dans la réalisation de cette nouvelle étude, qui est en fait une nouvelle étape, hein, pour apporter des réponses concrètes aujourd'hui sur ces différents enjeux aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Cette étude permettra aussi d'identifier les besoins des acteurs sur le terrain, dans des modèles qui se préoccupent en premier lieu d'une utilité sociale ou environnementale, et de leur apporter une meilleure reconnaissance. On retrouve Naya Wateu.
Sur les acteurs qui sont ceux clés de l'ESS, on connaît très souvent les associations, puisque ce sont les premiers acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elles sont à l'initiative de cette démarche dite d'utilité sociale, mais on retrouve aussi les coopératives, les mutuelles, les fondations et des entreprises avec cette notion d'utilité sociale au travers de ce label ESUS que nous avons engagé au travers d'un arrêté en début d'année. Un autre acteur essentiel et qui fait toute la spécificité de cette loi du pays ESS en Nouvelle-Calédonie, c'est l'intégration des GDPL. Parce que là aussi, on considère que ce développement développement économique sur terre coutumière doit pouvoir s'amorcer d'une manière différente. Historiquement, dans l'idée collective, les GDPL se démarquent plutôt par une démarche de revendication foncière, alors que ce sont des outils de développement économique. Pouvoir les intégrer dans cette économie sociale et solidaire, c'est aussi pouvoir retravailler cette manière d'entreprendre sur terre coutumière, dans un modèle qui correspond plus à la manière d'entreprendre.
Naya Wateu, membre du gouvernement en charge de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit aussi de permettre à ce secteur de compter dans le cadre de la politique globale de relance économique initiée par le gouvernement. L'économie sociale et solidaire qui constitue un levier reconnu de résilience, de cohésion sociale et de développement pour le territoire selon le gouvernement. Cette étude stratégique est prévue pour durer 6 mois. Ses conclusions devraient être dévoilées en fin d'année.
Et avant la signature de cette convention, le gouvernement s'est réuni pour sa séance hebdomadaire. Il a adopté un projet de loi du pays qui porte création d'un code de l'habitat calédonien. Il s'agit en fait d'un cadre législatif qui va se déployer par étapes pour mettre en œuvre la politique publique de l'habitat en Calédonie et doit aboutir à des réformes et à des créations d'outils et de moyens pour garantir un cadre unique et adapté aux réalités et aux attentes des acteurs concernés. Les membres du gouvernement ont également examiné un avant-projet de loi du pays intitulé « Des entreprises adaptées pour garantir l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ». Il s'agit d'un nouveau modèle d'entreprise qui a pour ambition de conjuguer performance économique et mission sociale d'insertion et d'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Il est 18h passé de 21 minutes. Seconde pause avant d'ouvrir notre page sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des cavalières du club de la Gourmette préparent un déplacement pour participer au championnat de France d'équitation. Un grand projet qu'elles veulent concrétiser pour le mois de juillet prochain, Mickaël.
Un voyage de 2 semaines pour s'acclimater, prendre contact avec des chevaux sur place avant ces championnats de France à la Motte Beuvron. 8 jeunes filles de 14 à 17 ans qui sont déterminées à faire briller leur club. Certaines témoignent de la préparation de ce projet qu'elles portent à bout de bras.
Je m'appelle Romane Clou, j'ai 16 ans. Je m'appelle Zoé Née et j'ai 17 ans. C'est une expérience qui est inoubliable parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion, en étant sur une île, d'aller se confronter justement au niveau national. On peut forcément se confronter au meilleur de Nouvelle-Calédonie, mais là c'est agréable de pouvoir partir pour se confronter aussi au niveau en France.
C'est assez impressionnant parce qu'on n'aurait pas pensé forcément pouvoir partir au championnat de France et on remercie notre coach Pauline pour ça. On fait beaucoup de brocantes pour essayer d'avoir de l'argent. Les balades à poney qu'on fait une fois par mois pour récolter de l'argent. Des quêtes au niveau des grandes entreprises pour essayer de récolter de l'argent.
On a essayé justement de faire des actions pour essayer de nous aider un maximum. Et on continue puisqu'on est très motivés et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On est quand même assez déterminés parce qu'on a des entraînements. On est quand même régulière sur les concours, on sait s'adapter aux chevaux. Oui, je pense qu'on est prête et qu'on y va vraiment pour réussir et gagner et faire des bons résultats. Oui.
Ces jeunes cavalières n'ont pas manqué d'idées pour collecter des fonds afin de concrétiser leurs projets, des brocantes, des actions pour rechercher des sponsors ou encore l'organisation de balades à poney. Elles ont également mis en ligne une cagnotte sur le site Eloasso intitulée « La gourmette au championnat de France ».
Et puis on termine avec cet événement organisé par le lycée Blaise Pascal, le Mundialito 2026, un remake de la Coupe du Monde de football, une matinée de cohésion entre tous les élèves et le personnel de l'établissement, environ 1000 élèves et près de 100 professeurs, personnel administratif et d'éducation étaient rassemblés pour une matinée de partage et de compétition.
Clara est de l'équipe 205, on représente le Japon. Bon, en vrai c'est très sympa, il y a beaucoup de cohésion d'équipe, c'est très marrant. Il fait un peu chaud mais l'ambiance est bonne.
Moi c'est Antoine et je représente la Croatie. Bah moi j'aime bien, franchement c'est une bonne matinée. On est tous là entre classes pour s'affronter sur un duel de foot, moi j'aime bien.
Je m'appelle Amis Gonval et on est en 204 Nouvelle-Zélande. Bah ça va, on est bien, on joue au foot, tout ça, c'est tranquille. On s'amuse bien quoi.
Inatea et je représente le Sénégal. Bien et mouvementé.
Mouvementé c'est-à-dire?
Il fait chaud.
Wayne Timothy, je suis de la classe STMG2 et je représente la France. Super ambiance, super fatigant et notre objectif, ben, c'était d'atterrir en finale mais on s'est fait disqualifier par la STMG3. Et c'était mon ancienne classe, du coup ben, ça faisait un peu plaisir de jouer avec les amis.
C'est Tiki Laini et je représente le Canada. Hyper bien, génial, ambiance festive, on est tous heureux.
Plus Canada ou France du coup?
Non, fierté française mais Canada dans le cœur là.
Le Mondialito 2026 du lycée Blaise Pascal s'est clôturé vers 11h30 par une rencontre très attendue. Un match de football entre les élèves et les professeurs. Et ce sont les secondes neuf qui ont battu l'équipe d'enseignants lors de la super finale sur le score de 2-0. Il est 18h25, on passe tout de suite à la météo.
Socafort Peinture vous présente la météo. Socafort Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socafort Peinture, c'est à Ducos.
La météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Cette nuit, de nombreuses averses parfois modérées remontent sur l'extrême sud, puis sur l'est et les Loyautés. Elles peuvent concerner dans une moindre mesure le Grand Nouméa en début de nuit. En fin de nuit, elles se cantonnent au nord-est, tandis que plus au sud, des éclaircies reviennent. Sur l'ouest et la pointe nord, le temps reste généralement sec, mais des passages nuageux s'invitent, notamment en fin de nuit sur le nord-ouest. Sur la côte ouest, le vent est faible, généralement compris entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, avec le passage des averses, le vent d'est-sud-est se renforce temporairement entre 15 et 20 nœuds et les minimales montent légèrement entre 21 et 24 degrés.
Merci beaucoup Ismaël, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.